Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h.
L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis.
L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale.
Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66.
Par mail à l'adresse 94degrésalombre@protonmail.com
ou par courrier à l'adresse Canal B 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes.
Ces messages seront diffusés.
Et bonjour à tous.
94 degrés à l'ombre sur Canal B.
Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre.
A tout de suite!
Salut, salut tout le monde!
Coucou!
Salut à tous qui nous écoutent en podcast. Ben, on se retrouve tout de suite pour écouter le rediffusé du Point Info. Donc, pour rappel, nous, c'est 94 degrés à l'ombre, une radio rennaise, mais qui a pour vocation de faire de l'information pour tous les pays francophones, pour tous ceux qui parlent français. Hein. Nous, le but, c'est de diffuser la pensée anticarcérale. Pour rappel, nous, on a une émission, début d'émission, on fait du lien entre les personnes détenues à travers des messages interposés. Donc, pour rompre un peu. Le fonctionnement de la prison qui est une zone d'ombre en fait et qui le but c'est d'isoler. Et de plus en plus on essaye de densifier un point info, donc c'est-à-dire qu'on fait de l'actualité et là du coup on vous laisse avec un point info mais un petit peu plus spécial que d'habitude. Gaspard va vous parler de tout ça.
Bonne écoute.
Et du coup là on arrive à la fin du moment dédicace parce qu'il est déjà 13h passé, il est presque 13h12, mais il restait quand même des dédicaces à passer, donc on... Comment ?
Pardon, j'avais oublié, la dédicace, elle est aussi pour Céline. C'est pour toi. Mouah.
Et du coup, il nous restait des dédicaces à passer. Je vais juste les nommer vite fait, comme ça, on s'excuse aussi de ne pas avoir relayé les vôtres. On les garde quand même de côté. Il y avait une dédicace de Bruno pour sa femme avec le morceau Grégoire de Donne-moi une chance. Il y avait une dédicace pour le CPF et le CPH aussi, et le CRA de Kerry James. Mais possiblement, ces chansons-là, on pourra aussi les écouter plus tard en articulant la discussion qu'on va avoir tout à l'heure. Il y avait une dédicace pour la Kanaki aussi, et une dédicace pour Anna, Latifa et Jamila qu'on n'a pas eu le temps de passer, qui était une dédicace de votre part.
Et Warda,
pardon, j'ai oublié, excuse-moi, désolé Warda, de la part de Norman et Kalei. Voilà. Du coup, on va passer au point info, entre guillemets. En tout cas, ça va être une discussion. Là, on vient d'accueillir dans les studios la famille de Kevin Boudou. Je peux vous laisser dire bonjour si vous souhaitez aussi peut-être parler à l'antenne.
Bonjour, bonjour.
Voilà.
Bonjour et merci de nous recevoir.
Bah, avec plaisir, merci beaucoup d'être là. Donc on s'est réservé une bonne cinquantaine de minutes pour pouvoir échanger avec vous sur toute cette affaire. Donc pour rappel, Kevin Boudou est décédé en prison, enfin pas en prison plutôt, il est décédé en tout cas à l'hôpital, mais c'était un détenu du CPH, donc à Vezin, et c'était le 1er mars si je dis pas de bêtises. Voilà, samedi 1er mars. Donc l'idée, ça va être de se retrouver pour pouvoir parler de ça. Moi, je propose que, avant qu'on passe là-dessus, on se fasse quand même, on s'écoute peut-être quand même une petite musique de transition entre le moment dédicace et le point info qu'on va aborder. Et on se retrouve dans quelques minutes. Il y avait un son que l'équipe a sélectionné de Droge qui s'appelle Jamais Proprio.
Jamais Proprio.
Qui est bien vénère et qui va nous mettre dans le bain. Voilà, bonne écoute à tous et toutes, et on se retrouve juste après.
Nique les bourges.
C'était Jamais Proprio de Droge qu'on vient de s'écouter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je disais tout à l'heure, on se retrouve donc dans le point info de cette émission. On accueille la famille de Kevin Boudou. Merci à vous d'être venu dans les studios. C'est la première fois que vous parlez à la radio, en plus.
Ouais.
Voilà, donc comme on l'avait dit tout à l'heure, n'hésitez pas à parler bien proche des micros. De toute manière, ici, c'est à la cool. Donc. Pas de prise de tête. Donc, émission quand même un peu différente de d'habitude. Là, l'idée pour vous aussi, c'était de pouvoir faire sortir votre vérité par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la mort de Kevin. Du coup, on va aussi beaucoup vous laisser la parole. On rebondira beaucoup sur ce que vous allez dire, notamment parce que bah, vous connaissez mieux que nous l'affaire et que vous savez aussi ce que vous avez envie de dire dessus. Et nous, on pourra derrière aussi se permettre peut-être de faire des parallèles avec d'autres histoires parce que bah, malheureusement, ce qui est arrivé à Kevin, ça arrive à beaucoup de gens. Moi, je voudrais juste rappeler les chiffres, au moins pour commencer, et pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas, qui se sentent pas forcément concernées par la tôle, mais qui nous écouteraient à la radio. En prison, donc Kevin Boudou, c'est quelqu'un qui est mort des suites de sa détention. Vous vous expliquerez un petit peu après. Voilà comment ça aurait pu se passer, ça s'est passé. Mais voilà, en tôle, le taux de mortalité, il est 7 fois supérieur à celui de la, des gens qui sont en dehors de la prison, de la population non écrouée. À savoir, Kevin était au mitard, et au mitard, ce chiffre-là, il est encore 7 fois supérieur à celui donc, des morts en prison, en dehors du mitard. Donc, c'est une surreprésentation vraiment du nombre de morts, souvent justifiée par des suicides ou des morts suspectes qui permettent de complètement aller balayer en fait ce qui aurait réellement pu se passer. Souvent, les enquêtes sont vraiment rendues très difficile, il y a des syndicats de matons qui savent comment se protéger, etc. À savoir, quand il y a des morts en prison, c'est toujours des histoires qui vont être remises en question, où on va se permettre d'aller fouiller dans le passé des détenus, que ce soit d'ailleurs des morts en prison ou des morts par la police. Je pense notamment à l'affaire d'Adrama Traoré et de toutes les personnes qui sont dans le collectif Justice et Vérité. Voilà, c'est des combats qui sont vraiment pas faciles. C'est aussi pour ça que pour nous, c'est hyper important de pouvoir soutenir les initiatives des familles. On espère que vous recueillerez cette parole-là. On espère que vous ferez diffuser aussi ce qui va être dit aujourd'hui dans cette émission-là autour de vous, parce que malheureusement, on n'a pas le relais des grands médias. Alors, on est quand même un média, on est quand même une radio, mais on n'a pas le relais des grands médias. On n'a pas cette parole légitime. On a une parole qui est toujours remise en question. Et donc, pour nous, c'est aussi très important de pouvoir vous donner un espace pour diffuser votre vérité. Donc voilà, ça va être aussi le propos de cette émission là. Est-ce que peut-être vous avez envie de, au moins pour situer aussi un peu l'histoire et faire un petit résumé de l'affaire, de ce que vous avez aussi en connaissance, en tête, que ce soit peut-être sur des dates ou sur des faits. Voilà. Allez, n'hésite pas à parler bien dans le micro, bien en face. C'est pas un exercice facile, mais prends le temps si t'as besoin de faire des pauses. Voilà, okay. Tranquille.
Donc en fait, moi je voulais juste revenir un peu sur les faits. Donc le 28 février, mon cousin a fait l'objet d'une audience suite à des signalements d'un service médical de la maison d'arrêt. Sur cet entretien, mon cousin indiquait avoir eu le 27 février un refus des agents pour accéder à la promenade et à la téléphonie. Il a été placé en quartier disciplinaire 20 jours. Dont 8 avec sursis pour des violences verbales envers une surveillante qu'il nie. Donc lui, il a dit que c'était pas lui, que c'était deux autres personnes qu'il a pas voulu dénoncer. A priori, les deux autres détenus ont confirmé que c'était bien mon cousin qui avait fait
ses propos.
Ouais, ses propos. Ouais. Et donc du coup, il a pris 20 jours de QD.
QD, quartier disciplinaire, voilà. Aussi appelé le mitard.
Voilà. Après le 28 février, il y a un surveillant qui confirme lors d'un entretien n'avoir eu aucune difficulté avec mon cousin. Il dit qu'il avait eu sa conjointe au téléphone et qu'il avait sollicité un UVF et un parloir.
UVF, c'est unité de visite familiale. Je me permets de dire les acronymes aussi pour les gens qui connaissent pas forcément la tôle. Voilà.
Voilà. Donc, ça a été refusé. Donc, je pense que mon cousin ne devait pas être très très content.
N'hésite pas, je te coupe, à parler bien dans le micro, ouais. Ou à le rapprocher même, ou Letty, si t'as envie aussi de l'aider.
Ouais, parce que c'est pas facile.
Tu peux l'enlever, regarde, si tu veux, tu peux prendre à la main.
Ouais,
si
maintenant je vais prendre à la main. Ouais. Ça va être plus simple.
Merci
comme
beaucoup.
Ça. Voilà. Dans un document de la maison d'arrêt, ils nous disent qu'il faisait pas l'objet d'un suivi au titre de risque suicidaire. Le 1er mars, un surveillant dit avoir eu de bons contacts avec mon cousin, qu'il avait été en promenade de 8h45 à 9h50, qu'il avait passé un appel interphonie donc, avec un surveillant, lors duquel il a pu indiquer en avoir marre du quartier disciplinaire. Et donc, suite à ça, mon cousin a été découvert à 11h20, accroché à un drap à la grille, en face de l'œilleton, la pointe des pieds touchant sur le sol. Sur l'incident, a priori, ça a été une prise en charge très rapide, en sachant qu'il était quand même au quartier disciplinaire. Donc, moi, j'en ai un peu parlé avec des personnes qui ont déjà été incarcérées, qui me disaient que suivant les horaires mis sur les documents qu'on a reçus, il leur paraissait quand même peu probable que ça se soit passé aussi vite. En tout cas, son arrivée au CHU, l'arrivée des pompiers, etc.
Oui, c'est ça. Par rapport au compte-rendu des matons, on peut aussi faire des parallèles avec d'autres histoires et se questionner sur... C'est quand même, enfin, de quand nous on en avait discuté un peu en amont, effectivement, les pompiers, les secours sont arrivés très très vite.
Voilà, exactement. En tout cas, quand il a été reçu le 28 lors de l'audience là, à la maison d'arrêt, il a quand même dit, il s'est plaint d'avoir rencontré des difficultés la veille, donc le 27, pour accéder à la promenade et au téléphone. Donc, selon mon cousin, les agents présents ce jour-là l'empêchaient volontairement d'y avoir accès pour le punir. Voilà. Et la maison d'arrêt dit tout le contraire, quoi. Ils disent que c'est mon cousin qui refusait la promenade, etc.
Ce qui est quand même assez lunaire pour... Enfin, là, on parle du mitard, du QD, le quartier disciplinaire. On est enfermé toute la journée. C'est pas du 24 heures sur 24, mais c'est presque. Donc, quand t'as ta promenade dans la journée, c'est souvent très rare de la refuser. Ça, c'est possible, hein, mais c'est aussi un point questionnant. Sur cette histoire-là. Et pareil, de ce que tu dis, ce qui est assez percutant, c'est que du coup, de ce que j'ai compris, il y avait des surveillants qui ne l'appréciaient pas. Il y avait un groupe de surveillants qui ne l'appréciaient pas.
Exactement, ouais. Donc ça, je vais laisser mon cousin en parler parce que je ne suis pas vraiment au courant de ça.
Voilà, bah, bonjour à tous. Hein. Voilà, au mitard, je sais qu'il y a des surveillants qui ne s'étaient pas aimés. Je peux pas dire les noms, mais les surnoms, peu. Viking, je sais que l'équipe à Viking sont vraiment là pour casser du détenu, ils sont pas là pour aider les détenus.
Ça, c'est la réputation.
Ouais, ça, c'est la réputation qu'ils ont, mais surtout au mitard, c'est vraiment une réputation que c'est dur, super dur, super dur. Bon, concernant mon frangin, je sais qu'il leur a jamais, jamais refusé les promenades du QD. Parce okay. que c'est une promenade au QD, c'est pas genre plusieurs, c'est même pas quoi, 20 minutes de ouais. promenade, je crois. Et c'est fort, hein. Nous, on nous a dit que quand il allait le matin, ça allait super bien, et en revenant. Pouf, mon frangin se pend. Je pense qu'il a un petit problème quelque part.
Clairement, par rapport à ce qu'on peut aussi voilà, entendre, enfin, faire des comparaisons avec d'autres histoires, etc., c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Vous me dites hein, si je me trompe, mais quand on en avait discuté, il était aussi dans des démarches de soins. Il y avait vraiment un... En fait, si on veut réagir à la thèse du suicide qui est soulignée, il avait vraiment pas des... Parce que bon, bah, quand on est détenu, mine de rien, tes faits et gestes, ils sont épiés, tout est dans les dossiers, etc. Et clairement, de ce que j'ai compris, il avait pas un comportement suicidaire.
Non, du tout. Moi, j'étais avec lui en
cellule. C'est bizarre d'analyser comme ça, pardon, je te coupe.
Moi, j'étais avec lui en cellule. Non, c'est pas du tout. Il n'est pas comme ça, mon frangin. C'est une personne qui avait la joie de vivre. Tous les jours, il rigolait, même de ses conneries tout le temps. Il était toujours à fond, mon frangin, à 100% de sa vie. Et du jour au lendemain, comme ça. De se pendre comme ça, c'est qu'il a un problème quelque part. Et après, il faut remettre les choses dans ce contexte. Après, je pense qu'aussi, l'on pousse au suicide. Après, voilà, on n'est pas là pour savoir. On n'est pas dans la tête des gens, mais il s'est passé quelque chose. Et alors, aujourd'hui, maintenant, il faut que la vitrine éclate. Même pour les détenus, ils ne sont pas tout seuls. Il y a beaucoup de monde qui peut vous aider. Il faut parler, il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut en parler, tout simplement. Mmh. Ouais. C'est important, je trouve. Moi, je dis, pour les détenus, il faut qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls. Surtout en prison, alors ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de suicides qui se passent un peu partout en France. Et non, il faut dire stop. Là, c'est un grand stop pour tout le monde, je pense.
C'est ça. Et nous, de toute manière, on part aussi du postulat que toutes les morts en prison sont de la responsabilité de l'administration pénitentiaire.
Tout à fait.
Que ce soit des suicides ou pas, en fait, les détenus sont cassés à l'intérieur de la prison. Là, juste pour rester sur le mitard, en fait. Le mitard, c'est hyper violent. Enfin, t'as rien dedans, ta table elle est clouée au sol, tout est cloué au sol de toute manière, t'as rien dedans, t'es enfermé comme ça, t'as des matons qui sont hyper violents, t'es déshumanisé constamment, tu croises personne aussi. Ça faut se dire que c'est la prison dans la prison,
c'est ça.
C'est vraiment très très dur et donc ça vient effectivement casser les détenus et ça laisse des séquelles. Il y a vraiment beaucoup de témoignages. Moi je pense à Libre Flow, je vais sûrement me permettre de faire des parallèles avec d'autres histoires par rapport à ce que vous dites, mais voilà, Libre Flow qui a beaucoup écrit sur sa détention, qui était à Fresnes si je dis pas de bêtises, il y a des lettres qui peuvent être trouvées sur l'Envolée, le site de l'Envolée, qui parle vraiment de sa détention au mitard et à quel point c'est violent et à quel point ça l'a effectivement cassé.
Ouais, ce que je voulais aussi ajouter, mais ça je l'ai déjà dit ici dans les studios, c'est que bien souvent, moi j'ai connu Vézin, j'ai connu le quartier disciplinaire de Vézin, et ouais, j'ai pu me rendre compte en fait qu'au quartier disciplinaire, en fait, ils mettent des équipes voilà, qui sont particulièrement violentes ou particulièrement virulentes envers les détenus. Ça veut dire que quand vous demandez quelque chose, on vous le refuse. Quand vous demandez la cabine, eh ben, on vous dit, en fait, soit on vous répond pas, soit on vous ignore, soit on vous avance une excuse. En fait, c'est quand ils veulent, c'est quand eux, ils décident. Et rien que ça, déjà, c'est pas normal parce que, en fait, quand l'administration pénitentiaire, en fait, le système carcéral vous opprime au quotidien, que vous subissez l'éloignement de votre famille, déjà c'est violent. Vous avez déjà psychologiquement, c'est compliqué. Alors en plus, si vous devez subir en plus un acharnement de la paix, en fait, eh ben ouais, je te rejoins totalement, Gas, quand tu dis que c'est ce qui amène en fait, c'est ce qui allume la petite étincelle dans ton esprit qui te fait prendre conscience que c'est dommage, hein, c'est triste, hein, mais quand tu préfères te pendre plutôt que d'attendre ta sortie et rejoindre tes proches. Voilà, c'est là le système carcéral qui est coupable de ça. Et voilà, donc toutes les morts sont imputables à l'administration pénitentiaire, toutes les morts qui peuvent subvenir dans les murs.
Moi, je voulais dire aussi que les surveillantes, elles reconnaissent elles-mêmes que c'est les CQD, là, c'est les bunkers de la prison. Et souvent, ça les fait bien rire. Et malheureusement, il y a des détenus qui simplement, pour enfin réussir à se sentir libre, se sentent obligés d'en finir comme ça, pour enfin avoir le sentiment d'être en liberté. Et ça, il faut jamais l'oublier.
Et du coup, moi je voulais peut-être revenir aussi sur l'affaire de Kevin. Je voulais savoir si vous aviez peut-être entamé des démarches suite à ça, parce que de votre point de vue, la thèse du suicide, elle convient pas, elle marche pas. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup d'infos aussi quand les personnes sont en détention, quand on est la famille, etc. Mais pour vous, ça correspond pas ni à sa personnalité, ni à même les démarches dans lesquelles il était à ce moment-là. Et donc, vous, c'est quoi un peu ce que vous avez mis en place aussi suite à ça, le combat en fait dans lequel vous êtes à ce moment-là?
Moi, je voudrais juste revenir sur la personnalité à Kevin. C'est quelqu'un qui était un peu arrogant. Donc, il pouvait vite vous mettre les nerfs. Voilà, il était comme ça. Il souriait H24. Donc, qu'il se fasse engueuler n'importe, c'était son moyen de se défendre, je pense. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose d'énervant pour les gens, puisque nous, on le vivait déjà avec lui, et voilà. Donc ça, c'est un trait de caractère qu'il avait. Et c'est vrai que ça pouvait être dérangeant, je pense, pour les surveillants, et pénible.
Puis c'est vraiment une forme de résistance, pour moi.
Exactement.
Aussi, quand t'es à l'intérieur, que de pas te laisser faire. Genre, la prison, le rôle de la tôle, c'est de te casser. Et en fait, quand tu te laisses pas faire... en fait, ça énerve les surveillants ou les surveillants.
Voilà.
Ouais, ils aiment pas ça.
Et je pense que lui, il aimait bien montrer qu'il était bien par ce sourire-là, pour pas montrer de faiblesse, etc. Quoi.
Et pardon, t'allais dire un truc ?
Non, j'allais juste dire après sur les démarches. Du coup, on a porté plainte pour non-assistance à personne en danger. On a fait un dépôt de plainte contre X pour... Le dépôt de plainte contre X, c'est pour...
Pour savoir comment que Kevin a été pendu.
Oui, voilà, pour connaître les raisons de la pendaison et d'autres éléments.
Vous êtes obligé de passer par là pour qu'il y ait une affaire en cours qui puisse aussi aller étudier, qu'il y ait une autopsie et qu'il y ait des choses qui soient mises en place.
Ouais. En sachant que l'autopsie, elle a été faite à peu près
15 jours après.
3 semaines même, peut-être.
15 jours.
Ça dure super longtemps.
Et on a été obligé de demander, redemander, insister. Voilà, nous on est passé par les les réseaux sociaux.
TikTok, tout ça.
Voilà, c'est aussi peut-être en ayant mis des pressions que vous avez réussi à avoir plus d'infos ou entamer des démarches.
Ouais, on a fait des articles dans ActuRennes. En fait, avant l'autopsie déjà.
Qu'on mettra sur le Facebook.
Voilà, pour essayer de mettre la pression pour avoir l'autopsie. Et une fois que l'autopsie a été faite, on n'a pas eu les résultats tout de suite. Mais par contre, Ouest France a fait également un très gros article sur mon cousin qui a été, je crois que c'était il y a 2-3 jours là, qu'il est sorti. Donc, en reprenant un peu les faits, etc. Et je les remercie parce que c'est vrai que, du coup, ça peut nous aider aussi.
Le moindre soutien dans ces affaires-là, c'est hyper important. Déjà d'une, parce que vous allez être confronté à cette histoire-là pendant un moment donné, pendant vos démarches, etc. Et que, évidemment, que c'est pas facile et que ça... Enfin, en fait, c'est un proche à vous qui est décédé et vous allez être constamment plongé aussi là-dedans à devoir ressortir l'histoire et c'est lourd et du coup je pense que du soutien c'est toujours très important de la part de n'importe qui et même des gens qui pourraient essayer de faciliter cette affaire-là, qui pourraient essayer peut-être si vous pouvez relayer à l'intérieur aussi cette histoire-là pour aussi se soutenir entre détenus et réagir face à ça parce que c'est pas normal. C'est Kevin Boudou aujourd'hui mais en fait, là on parle de Kevin Boudou aujourd'hui mais c'est arrivé plein de fois et les familles ont besoin d'aide pour aussi que ces histoires-là aient fond du bruit. C'est clairement, enfin moi j'ai envie de parler de rapport de force dans ces moments-là. Pour que votre parole elle soit entendue, il faut qu'elle soit relayée et d'où nous aussi l'utilité. Enfin ce qu'on fait là aujourd'hui à la radio, c'est aussi pour ça et c'est hyper important que ça fasse du bruit. Donc si vous êtes au courant de choses, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit par le Facebook, par notre numéro de téléphone, par les lettres ou quoi que ce soit. On vous redira nos contacts tout à l'heure. Mais c'est hyper important si vous avez des infos ou si vous pouvez faire relayer ça à l'intérieur, faire sortir ça en parloir, d'essayer au maximum.
Mais en plus, il y a eu encore un autre décès là, ce mois-ci, là, le 10 avril. Là.
C'est ça, un mois d'intervalle d'après Kevin Boudou.
Donc ça devient très inquiétant. C'est quelque chose qui est inquiétant. Ouais.
Très, très, très inquiétant.
On a remarqué aussi sur les réseaux sociaux, donc sur les articles qu'on a publiés à travers nos réseaux à nous et les réseaux donc, des journaux, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui témoignent en dessous en disant que, qu'ils avaient vécu des pressions comme ça ou des violences dans différentes maisons d'arrêt. Donc en fait, on se rend compte quand même que c'est un peu partout pareil, quoi. Donc ça peut être des maisons d'arrêt de Bordeaux ou ailleurs. Enfin, c'est pas que ici, quoi, et que le mécanisme est le même, en fait. Donc c'est un peu inquiétant, quoi. Mmh. On va là-bas pour purger une peine. On n'est pas là-bas pour mourir ou subir des violences par des surveillants. Je pense que là, il faudrait peut-être aussi avoir un encadrement un peu plus serré. Et je ne sais pas si ça, c'est en place, mais peut-être avoir un suivi après le quartier disciplinaire ou après des coups visibles sur des détenus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, quoi. Et prendre en compte leurs paroles, pas que celle des surveillants, pas que la version des surveillants.
Ouais. Moi, ça me fait faire un parallèle avec l'histoire de... Oh non, j'ai oublié son prénom, pardon. De la personne qui est décédée au mitard de Lyon-Corbas. Soi-disant, mort suspecte, suicide. Mais où du coup... Idir Médérès, voilà, pardon. Idir Médérès, qui... Donc sa mère, Najette, elle est en lutte depuis des années. Maintenant, depuis 2021, je crois. Et en fait, elle soupçonne des matons. Une équipe de matons, pareil, qui avait... Une haine, une rancœur envers ce détenu-là, Idir Médérès, et elle soupçonne le fait de l'avoir violenté, enfin que les matons les tapaient trop fort, ça s'est passé au mitard, à l'abri des regards. C'est aussi des histoires qu'on entend à d'autres endroits, ou même pour rebondir aussi sur le côté non assistance à personne en danger, je fais un parallèle avec Saint-Brieuc. Il y a Sacha qui est mort, qui avait 18 ans, qui était alors je sais plus s'il était je crois qu'il était au mitard à ce moment-là ou à l'isolement, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas qui avait écrit une lettre au directeur de la prison en lui disant « il faut que vous me sortiez de là », donc qui était très clairement en détresse psychologique, qui avait mis des mots sur sa santé psychologique à ce moment-là, qu'il l'avait écrit au directeur de la prison et en lui disant « faites-moi sortir, sinon je vais mourir ». Il n'a pas été sorti. Et c'est pareil, un combat pour sa famille, pour sa mère, Lauriane, depuis des années, d'essayer de faire reconnaître la responsabilité de l'administration pénitentiaire là-dedans. Et pour moi, c'est vachement lié avec des histoires de... Enfin, ça, en fait, on peut faire aussi beaucoup de parallèles avec des histoires d'équipes de matons ou de matons, hein, ça marche aussi au CPF, ont des détenus qu'ils aiment pas et qui vont s'acharner aussi sur des gens. Clairement, je rebondis sur la punition là, le mitard qu'il a pris, le QD de 20 jours, c'est pour des propos injurieux. Alors même si on peut ne pas cautionner les propos injurieux en fonction de la violence qui est dite ou quoi que ce soit, effectivement ça peut ne pas être ok. Je pense par contre pouvoir vraiment avancer, même si j'ai pas connu la tôle ou quoi, que 20 jours de mitard, c'est énorme par rapport à ça. C'est, même si on fait des parallèles en fait avec d'autres punitions de jours de mitard, c'est clairement très rare de voir une punition de cette ampleur là ce qui peut aussi soulever le fait que peut-être qu'il y avait une équipe de matons qui était énervée contre lui.
Mais après, moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Gas, il faut savoir aussi qu'en détention, il y a un syndicat des surveillants en fait, qui est très puissant. C'est-à-dire que même la direction, des fois, ne tient pas sa tôle, même si elle doit présider le prétoire, même si c'est la directrice que tu as en face de toi qui essaie de juger en fait, la gravité du nombre de jours qu'elle va te... auquel elle va te condamner au quartier disciplinaire. C'est-à-dire que les surveillants en fait, se constituent en syndicat et vont menacer la directrice que si la décision disciplinaire n'est pas exemplaire, eh ben, en fait, après les surveillants, en fait, c'est des menaces de grève, de plein de petites actions. En fait. Et la directrice n'ont d'autre choix que de se plier au bon vouloir des surveillants, parce qu'après les surveillants, en fait, c'est eux qui font la loi en détention, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent tout, même la directrice, ou le directeur, souvent elle se plie aux exigences des surveillants, parce que c'est clairement les surveillants qui règnent dans les murs il faut remettre les choses et la hiérarchie à l'endroit. C'est pas les surveillants qui font la loi, c'est les gradés et c'est la direction, et pas l'inverse.
Moi, je voulais rebondir sur autre chose, c'est que en plus, mon cousin a pris 20 jours, alors que ils n'ont pas réellement de preuves que c'est lui qui a bien tenu les propos au final. Et là où j'ai été très étonnée aussi, c'est je me suis mis en lien en fait avec une personne que je connais très bien, qui a été plusieurs fois à Vezin. Je lui ai parlé de l'affaire de mon cousin, donc qu'il avait été retrouvé pendu et qu'il était hospitalisé, qu'il n'était pas encore décédé au moment-là. Et en fait, je lui ai demandé s'il pouvait se mettre en connexion avec des détenus en interne. Et finalement, on s'est rendu compte que personne n'était au courant de ce qui s'était passé. Donc, personne ne savait que mon cousin avait été retrouvé pendu. Personne ne savait qu'il était hospitalisé. Et quand il est décédé, puisque c'est intervenu que quelques jours après... Eh ben, personne n'était encore au courant, en fait. Donc, c'est par ce biais-là que, dans la maison d'arrêt, l'affaire de mon cousin, vraiment, s'est su, quoi. Et ce que j'ai eu en retour, c'est que effectivement, mon cousin n'était pas très aimé par une équipe de surveillants en particulier, et qu'a priori, en plus... donc je dis bien a priori parce que j'ai pas eu le surveillant au téléphone ou quoi que ce soit, mais un surveillant aurait dit à un autre détenu que 2 jours après sa sortie du quartier disciplinaire, il y avait déjà une fouille de cellule qui était prévue. Et ça, c'est une info que j'ai eue par le biais d'un détenu qui est incarcéré actuellement.
Un côté d'acharnement.
Voilà, exactement. Donc ça montre bien quand même que malgré ces 20 jours qu'il aurait fait, ça aurait perduré.
En fait, il n'était pas seul au QD quand c'est arrivé, quand il est décédé. Il y avait d'autres détenus au QD. Donc je pense que pour la famille, je fais un appel à tous les détenus qui étaient au QD pendant que Kevin Boudou, il lui arrivait ça. Si quelqu'un a entendu, vu quelque chose, il faut le dire, il faut prendre contact avec la famille ou avec la radio, et il faut absolument venir en parler. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Et voilà, c'était juste un appel. Allez-y, parlez, parce qu'il n'était pas tout seul quand ça lui arrivait. Voilà, la force.
Ouais, et puis je le dirai jamais assez souvent, comme vous qui êtes au placard, vous les connaissez les techniques hein, pour communiquer avec les gens de l'extérieur, hein, les petits courriers qui sortent au parloir, faut pas hésiter, parce que là c'est pour une cause, c'est pour une famille qui est en demande de réponse aux questions qu'elle se pose, donc ça serait cool que, ben voilà, si vous pouviez aider la famille de Kevin à obtenir justice et vérité, eh ben, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire.
Ouais, et surtout, faut pas avoir peur. On est tous là, on a tous vécu la même chose. Moi, j'étais un détenu, j'étais là-bas aussi, et je sais très bien comment ça se passe. Et faut pas avoir peur, les gars, faut lâcher. Vous inquiétez pas, on n'est pas seul, on est entouré. Mmh. Faut pas croire qu'on est tout seul, qu'on est de la merde, parce que eux, ils nous prennent pour de la merde, mais faut qu'on se dise qu'on a fait des conneries, et qu'on s'est sorti de la merde, et qu'on peut avancer, les gars. Faut soutenir et se soutenir entre nous. Faut pas qu'on se fasse des coups de Trafalgar, comme on dit. Alors, s'il vous plaît, allez, faut balancer toute la vérité et voilà, faut que ça éclate. S'il vous plaît, merci à vous.
C'est comme ça que ça.
S'il vous plaît, allez-y, les gars, dites tout, lâchez tout. Mm. Vous êtes capables. Si ça vous était arrivé à vous, vous n'hésiteriez pas une seconde. Allez-y, lâchez tout, vous y étiez aussi.
C'est de toute manière aussi des choses qu'on prône, nous, à la radio, l'entraide entre les détenus dans ces moments-là. Là, on parle de l'affaire de Kevin, mais que ce soit pour aller écrire des recours, écrire des lettres à l'avocat ou quoi que ce soit, ou à l'avocate, faut pas hésiter. C'est comme ça qu'on rentre. Enfin, moi, je reparle du rapport de force, hein, mais le terme, il est marquant. C'est clairement, on perd dans ces histoires-là. Donc, si on fait du bruit, si on arrive à trouver du soutien, si on arrive à trouver des relais, c'est comme ça qu'on rentre dans le rapport de force, et c'est comme ça qu'on les contraint à devoir nous donner des réponses, parce que ils ont les réponses. C'est juste que c'est l'administration pénitentiaire qui décide de faire sortir les infos ou pas. Elle est maître dans sa prison. Et voilà, c'est aussi très compliqué de lutter, d'où le rapport de force.
Ouais, j'allais ajouter d'autant plus que mon cousin, quand il a été hospitalisé, on a pris des photos de son corps sur plusieurs jours. Des bleus sont apparus et a priori, voilà, il n'y a aucune explication. Donc ça, je le dis, je l'affirme. Parce que là, on a des documents qui nous sont revenus pour nous affirmer que, voilà, effectivement, il a des bleus. On ne peut pas dire d'où ça provient.
OK.
Par contre, moi, ce que je peux affirmer, c'est que quand il est arrivé au CHU, il ne les avait pas. Puisqu'ils sont arrivés le lundi et mardi. Donc, on a les photos de ça. Et malgré ça, voilà.
Il n'y a pas d'explication dessus.
Il n'y a pas d'explication, ouais, et on ne nous dit pas si le décès est dû à ça, si le décès est dû à donc une pendaison
oui,
par lui-même. Enfin, voilà.
Pas cohérent.
Non.
Ouais.
Surtout, c'est plus facile de dire toujours que c'est le détenu que voilà que c'est pas le surveillant.
De toute manière, c'est souvent la thèse à avancée par l'administration pénitentiaire qui se cache derrière en fait cette excuse-là en fait pour éviter toute enquête ou toute question voilà qui resterait dans les esprits parce que.
Je voulais dire aussi, c'est quand même des traces de coups, des gros hématomes au niveau du cœur, donc. C'est des traces de coups, des gros hématomes au niveau du cœur, en dessous le cœur, enfin sur le, voilà, à gauche là, au niveau du cœur, sur les côtes. Et ça, c'est pas des coups qui apparaissent suite à une pendaison. Donc, y a vraiment un gros problème. Et là, il y a des preuves. C'est pas ça, des traces de pendaison.
Moi, surtout aussi, pareil, comme vous dites, hein, des traces. Mais il y a des traces qui ont apparu, mais comme des bleus. Au niveau du visage, des griffures, au niveau du cou, des marques de pouce, les poings gonflés, tout ça, c'est pas logique. C'est pas une pendaison, c'est pas une pendaison normale.
Non, il y a trop, il y a trop d'incohérences.
C'est ça, il y a trop de trucs qui sont bizarres. Et surtout, comme par hasard, à chaque fois, ils font des trucs comme ça. C'est bah la caméra n'a pas marché. Mais comme par hasard, à chaque fois, les caméras ne marchent pas.
Non, mais ça, de toute manière, les caméras. Moi, j'ai toujours milité en fait pour que ça soit un organisme indépendant de l'administration pénitentiaire qui gère les caméras, parce que si c'est les surveillants eux-mêmes qui peuvent interagir sur les bandes, et dire un truc, et même on vous dit souvent, en gros, c'est un bug, ça n'a pas marché. Mais en fait, les caméras, c'est des prix exorbitants, mais c'est uniquement pour protéger les surveillants et pas les détenus.
Est-ce que vous avez d'autres infos que vous aimeriez dire aussi, ou peut-être qu'on peut se faire aussi une petite pause, passer un morceau et aussi souffler deux petites secondes entre nous. Alors le son qui va enchaîner, c'est un son qu'on aime bien. Moi pareil, je fais encore un parallèle aussi avec Idir Medeiros. C'est un son que sa mère aime beaucoup, donc qu'on va passer. C'est un son de Soul King et de Ouled El Bajja, pardon pour ma prononciation bancale. Le son, c'est Liberté, voilà, de Soul King, qu'on s'écoute maintenant. Force à tous.
Pour tous les gens qui nous écoutent en podcast, on se retrouve après la petite pause qu'on vient de se prendre. Alors bien sûr, en podcast, on peut pas mettre de musique, parce qu'il y a des droits d'auteur et nique les droits d'auteur, c'est trop de la merde. Du coup, on se retrouve tout de suite. À toutes.
Et ouais, c'était Soul King, Liberté, qu'on vient de s'écouter. Du coup, on a fait nous une petite pause aussi dans les studios. On avait plein d'autres sujets, on avait un autre sujet dont on aurait aimé parler avec vous aussi. Donc on se retrouvera sûrement tout à l'heure avec la famille de Kevin Boudou pour vous dire au revoir. Moi, je voulais juste vous faire un petit rappel de nos contacts à nous avant qu'on passe à un sujet suivant dans ces dernières minutes, parce que ça va être le cas par lequel vous allez pouvoir passer si vous souhaitez témoigner par rapport à Kevin Boudou, ou si vous souhaitez témoigner par rapport à d'autres affaires, si ça vous a donné de la force pour prendre la parole et dénoncer l'arbitraire de la prison. Allez-y, on peut recevoir vos lettres. Les lettres, elles sont lues, clairement, c'est peut-être pas le meilleur canal, mais vous pouvez nous écrire par lettre à l'adresse 94°-canal-B au 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Après, les lettres, elles peuvent être aussi passées au parloir. Je vous incite à rien, mais sachez que plein de choses sont possibles. Vous pouvez aussi nous appeler par téléphone les dimanches de 10h à 11h45 au 02 99 52 77 66. 02 99 52 77 66 de 10h à 11h45. On peut vous enregistrer si vous avez des trucs à dire. Vous pouvez juste aussi discuter avec nous si besoin. Et on a aussi une adresse mail. Alors l'adresse mail est censée être sécurisée, clairement, même si tout n'est pas infranchissable, toutes les barrières ne sont pas infranchissables. Je pense que ça demande quand même beaucoup d'énergie à l'institution carcérale d'aller pister les mails. Donc si vous souhaitez passer par cette adresse mail, vous pouvez, elle est relativement sécurisée. 94°@protonmail.com, 94 en chiffres, degrés à l'ombre tout attaché sans accent, @protonmail.com. Et cette adresse mail là, vous pouvez aussi la retrouver, elle est notée sur notre page Facebook de l'émission 94°, par laquelle vous pouvez nous écrire, nous envoyer des messages vocaux si vous avez un téléphone, c'est possible. N'hésitez pas à faire tourner nos contacts autour de vous, je vous laisse les noter. Notre numéro de téléphone, c'est le 02 99 52 77 66. Pareil, la page Facebook 94°. Relayez ça autour de vous. On sait jamais, il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de parler et c'est hyper important. Pour le point qui va suivre, je pense que je vais laisser mes collègues annoncer la suite.
Et ouais, qu'est-ce qu'on voulait parler, Vitesse ? De quoi on voulait parler ?
On voulait parler d'hier, vite fait, rapidement. On en parlera une prochaine fois avec plus de temps. Mais il y a eu Aurélie Garand qui est venue à Rennes.
Il s'est passé des dingueries.
C'est qui Aurélie Gailland, Camille ?
C'est une autrice, en gros, autrice, c'est pas pour n'importe quoi. En fait, c'est son frère, c'est ça, qui est décédé, Diego Garand, parce qu'il n'est pas rentré en prison, alors que l'administration pénitentiaire lui avait demandé. Et il est décédé, pourquoi ? Parce qu'il a été assassiné par le GIGN quand il est rentré chez lui. Donc, assassiné sauvagement, devant sa famille, ce qui a créé des traumatismes de ouf. Et du coup, nous, on s'est dit que c'était une bonne idée de l'inviter à Rennes, parce que ça faisait notamment longtemps qu'elle voulait venir. Est-ce que tu veux raconter ce qui s'est passé, Vitesse ?
Carrément. Comme tu disais, il a été assassiné par le GIGN en 2016, si je ne dis pas de bêtises, de 5 balles. Donc 5 balles dans les organes vitaux, et la justice dit que ça a été de la légitime défense de la part du GIGN, parce que Angelo aurait utilisé un couteau en faisant des gestes circulaires, et donc aurait menacé les personnes du GIGN, armées. Vous voyez comment sont les personnes du GIGN, donc.
Et, c'est des forces d'intervention spéciales, hein. C'est comme, oui, la BRI, etc. C'est des entraînements paramilitaires, hein, clairement, qui sont faits.
Exactement. Pour terrorisme, entre guillemets, aussi. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Angelo, c'était un voyageur, et qu'il a été assassiné chez lui, dans sa famille, et alors qu'il était donc il avait décidé de pas rentrer, mais il a été assassiné en toute connaissance de cause par le GIGN, parce que en plein de famille, enfin, c'est terrible ce qui s'est passé. Donc Aurélie, elle a écrit un livre qui s'appelle Depuis qu'ils nous ont fait ça. Elle l'a écrit, il a été terminé en 2022, et là il y a eu un gros coup dur, parce que y a eu des non-lieux en France, mais aussi elle a fait appel à la Cour européenne pour le droit à la vie, en fait, et ça a été refusé là récemment, c'était le mois dernier, et donc c'est un gros coup dur. Et ce qu'elle disait, Aurélie, là, c'est que la vérité judiciaire, c'est pas la vérité, et que ça tient pas cette histoire. C'est comme on disait là aujourd'hui, mais ça ne tient pas cette histoire pour Angelo et l'assassinat d'Angelo. Et voilà, donc je vous invite à lire Depuis qu'ils nous ont fait ça, d'Aurélie Garand, et d'avoir des retours sur le racisme envers les voyageurs, notamment.
Ouais, juste moi je voulais rappeler, parce que je crois que tu as dit que c'était 2016 la date à laquelle il s'était fait assassiner, c'est le 30 mars 2017, c'était une, ouais, okay, petite correction.
Et ouais, du coup, on diffusera, bien sûr, on a tout enregistré, de la discussion et tout. Et la semaine prochaine, normalement, on aura les enregistrements, on aura les rushs, et on va pouvoir vous présenter un peu quelques points. Bah, forcément, ça a duré quelques heures, la discussion, il y avait beaucoup de monde, on était une trentaine de personnes, je crois, à ce rendez-vous. On a parlé anticarcéralisme, c'est comme ça qu'on dit, je crois. On a parlé de quoi d'autre ? On a parlé d'antiracisme, on a parlé du fait que c'était clairement un acte raciste de la part du GIGN, et que ça confirme bien que les institutions sont racistes, et notamment envers les voyageurs. On a parlé du génocide, et du fait que les voyageurs n'ont pas été libérés en 1945 et bien en 1946. On a parlé de plein de choses comme ça, et donc plein de choses à dire sur ce sujet. Et donc Norman, tu veux dire quelque chose peut-être ?
Il y a aussi le fait que c'est vrai que les membres de la communauté des gens du voyage sont extrêmement soudés. C'est un lien qui appartient à eux. En fait, entre voyageurs, ils se soutiennent, ils se tiennent les coudes. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut agacer l'administration pénitentiaire, parce que quand il existe en fait une solidarité, une cohésion, même entre détenus. Moi, j'ai déjà été dans une cellule où ça se passait très très bien avec mon co. Dédicace à toi, mon babas, si tu nous écoutes. Voilà, en fait, ils nous ont séparés juste parce qu'on s'entendait trop bien. Et quand t'es trop bien, et ben, ça déplaît à l'administration pénitentiaire.
Toujours dans cette idée d'aller casser les détenus, hein, et la solidarité.
Tu veux dire un truc, Vitesse ?
Bah, du coup, appel à la solidarité, appel, ouais, à témoignage par rapport à ce qu'on vous a parlé aujourd'hui des proches de Kevin Boudou. Voilà, carrément.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Là, on arrive dans la fin de l'émission, donc on peut faire les au revoir.
Ouais. Nous, bon dimanche à tous. Hein.
Merci. J'espère que merci à tout le monde, quand même.
Merci de votre confiance.
Et puis n'hésitez pas, voilà, à faire partager si vous avez si vous êtes au courant de quelque chose. N'hésitez surtout pas à nous contacter, hein, comme avec les petits tips que je vous ai donnés à l'antenne. Il faut les utiliser. C'est pour la bonne cause.
Merci beaucoup d'avoir eu le courage et la force aussi de venir dans nos studios et de prendre la parole. Je sais que c'est pas un exercice facile et voilà, je pense que
c'est. Bah, merci de nous avoir invités surtout et voilà, j'espère que ça va apporter ses fruits.
Ouais. Si besoin, vous êtes les bienvenus dans nos studios de toute manière. Voilà, si on a des infos à faire passer en plus, maintenant on se connaît. Donc voilà, force à toutes les personnes qui luttent à l'intérieur. Bien évidemment, crève la tôle, ça change pas. Et on va se quitter sur un petit son peut-être. Voilà, avant de passer à l'émission La Sieste sur Canal B. Le son, c'est SCHT1 de Amer.wav. Bonne écoute à tout le monde.
Mais c'est, crève c'est une Rennes, je crois, Amer.wav. Ou un Rennes, je sais pas. Super artiste.
Je t'en flic, je t'en pop, je t'en Darmanin. Je t'élite, je t'en riche, je t'en Doleskine.
Alors, si vous souhaitez nous écrire par lettre, par exemple, vous pouvez nous envoyer tout ça par courrier, donc à l'adresse 94 degrés Canal B au 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Canal B, 94 degrés au 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. On est aussi disponible par téléphone quand on est dans les studios, donc les dimanches matins pour préparer l'émission. Vous pouvez nous appeler entre 10h et 11h45. Le petit dernier quart d'heure, c'est aussi pour que nous, on ait le temps de finaliser un peu l'émission. Donc voilà, vous pouvez nous appeler au 02 99 52 77 66 tous les dimanches de 10h à 11h45. Je répète le numéro 02 99 52 77 66. Et puis bah voilà, par mail aussi à l'adresse 94degrésalombre@protonmail.com, 94 en chiffres, degrés à l'ombre tout attaché et sans accent, @protonmail.com. Et puis on a la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Ça normalement vous pouvez la trouver facilement. Donc ça voilà, c'était nos contacts à nous. Et puis ensuite on estime qu'il y a des contacts, il y a des contacts qu'on trouve pertinents à vous partager. Je pense notamment à ceux de l'envolée qu'on a l'habitude de vous donner, ou à ceux de l'OIP. L'envolée donc c'est pour leur écrire, donc ça peut être par exemple pour recevoir la revue trimestrielle que l'envolée publie, ou bien si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie aussi de rentrer en correspondance avec des militants ou militantes de l'envolée, c'est aussi possible. Vous pouvez donc leur écrire des lettres à l'adresse l'envolée-fpp au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. L'envolée-fpp au 1 rue de la Solidarité au 75 019 Paris. Donc c'est vrai que je l'ai pas trop précisé, mais l'envolée c'est un collectif parisien qui en gros donc publie une revue trimestrielle qui est gratuite à destination des personnes incarcérées, qui est faite par et pour les personnes incarcérées. Et puis on peut aussi nous être relais de vos lettres. Donc si vous n'avez pas envie de directement envoyer vos courriers à l'adresse de l'envolée, ça peut passer par l'adresse de la radio, donc au 6 cours des Alliés, et puis nous, on fera le relais. Il y a aussi les contacts de l'OIP qu'on trouve important à vous transmettre. L'OIP qui, pareil, donne gratuitement à destination des personnes incarcérées le guide du prisonnier, qui est un gros bouquin d'accès aux droits, de recours, notamment pour que vous puissiez aussi vous défendre et comprendre un petit peu tout le fonctionnement du système pénitentiaire, essayez en tout cas. Et donc si vous souhaitez recevoir le guide du prisonnier, ça se fait à l'adresse OIP-SF pour section française, au 7 bis rue Riquet, 75-019 Paris.
Merci Gasp, mon micro était fermé, mais tout va bien. Et du coup, juste pour terminer, on peut vous communiquer aussi les contacts de Brin de Soleil, qui est une association à Rennes et qui s'occupe notamment de la maison L'Arc-en-Ciel, qui est un lieu d'hébergement pour les proches qui souhaiteraient venir faire des parloirs et qui vivraient pas dans le département, ou également des personnes qui auraient des permissions de quelques jours, enfin voilà, et qui seraient en recherche de logement. Donc c'est un lieu d'hébergement qui a un prix plus accessible que des hôtels par exemple, et que vous pouvez contacter au 07 68 16 09 53 ou à l'adresse hébergement@brindesoleil-rennes.fr, et c'est un lieu qui se situe au 53 rue Bigot de Préameneux. Et voilà, et l'association Brin de Soleil gère aussi les maisons Titom et Luciole, qui sont situées juste à côté du CPH et du CPF. Donc le centre pénitentiaire des hommes et le centre pénitentiaire des femmes. Et voilà, c'est des lieux dans lesquels vous pouvez prendre un moment de repos avant ou après un parloir, déposer des affaires, prendre un café, enfin voilà.